7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Alors que la recherche sur la Covid-19 progresse de jour en jour, chaque découverte nouvelle semble à la fois nous éclairer et rendre la situation plus complexe. Il ne s'agit pas de quelque chose de très inédit en recherche médicale. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Luc Perrineau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin et essayiste. Vous avez notamment publié un ouvrage intitulé « Patient zéro » aux éditions La Découverte. Luc Perrineau, aujourd'hui, la recherche sur la Covid, la manière dont on tente de combattre cette maladie, que vous rappelle-t-elle de ces tentatives passées et souvent fructueuses de lutter contre des maladies ?
Alors, le terme de patient zéro, donc, s'adresse généralement aux maladies infectieuses. Et effectivement, dans les maladies infectieuses, nous avons fait beaucoup de progrès. Auparavant, on constatait simplement l'aspect clinique de ces maladies, c'est-à-dire on voyait que des patients avaient toussé, avaient des boutons, voilà, c'était l'aspect clinique sur le patient. Et les progrès ont été très rapides, notamment après la découverte, bien sûr, des microbes par Pasteur. Et maintenant, nos progrès sont tellement rapides, j'allais dire, qu'ils devancent presque la réalité clinique. C'est-à-dire que nous avons la capacité de voir dans les émergences virales, ce qu'on appelle les émergences virales, donc c'est les grandes maladies virales qui sont apparues depuis la fin des grandes épidémies bactériennes, donc les émergences virales les plus connues, vous les connaissez tous, c'est la grippe espagnole et le sida, qui sont les deux mieux identifiés. Mais il y en a eu beaucoup d'autres, évidemment, pendant toute cette période. Et souvent, on n'avait pas les moyens de savoir. On disait c'est une virose. Mais maintenant, nous avons ce qu'on appelle le décryptage génétique des virus eux-mêmes, et non seulement des virus, mais des nouvelles souches virales. Et on peut trouver une virose, donc une nouvelle virose, presque avant qu'elle soit une épidémie, hein, qu'elle soit de caractère épidémique. Dès qu'on a deux ou trois patients, on le trouve. Donc ça a complètement modifié notre approche de ces maladies.
Qu'est-ce que ça provoque concrètement dans la recherche médicale, le fait d'avoir finalement un décryptage génétique de ces virus ?
Alors, d'un point de vue fondamental, c'est très intéressant, évidemment, puisqu'on connaît les nouveaux virus. On essaye de comprendre surtout pourquoi ces nouveaux virus atteignent la population humaine. Hein, c'est ce qui nous importe, évidemment, parce que des virus, il y en a partout, dans toutes les espèces animales et végétales, bien sûr. Les seuls qui nous intéressent, c'est ceux qui concernent les hommes, et surtout ceux qui sont pathogènes. Il faut savoir que les virus pathogènes, donc donnant des maladies, sont évidemment les plus rares. La plupart des virus nous sont complètement indifférents. Et donc, quand il y a un nouveau virus pathogène, on essaye de comprendre pourquoi il est là. Alors, depuis quelque temps, on sait que c'est presque toujours, je pourrais dire toujours ou presque toujours, ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des virus animaux qui, par des mutations diverses, sont devenus transmissibles à l'homme et par d'autres mutations sont devenus surtout transmissibles d'homme à homme. C'est ça qui est plus grave, parce que ce soit transmissible de l'animal à l'homme une ou deux fois, et ce qu'on appelle des impasses évolutives, c'est-à-dire le virus s'arrête à l'homme, c'est pas grave. Par contre, quand il y a une transmission interhumaine, évidemment, c'est plus problématique.
Luc Perrineau, dans Patient Zéro, vous revenez notamment sur l'histoire du chinois Liu Jianhun, qui a contribué à la propagation mondiale du SRAS, donc c'était en 2003. Qu'est-ce que l'épisode du SRAS vous permet d'éclairer sur ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui avec le coronavirus ?
Alors, ce médecin dont vous parlez, il est un des patients zéro célèbres, j'allais dire. Le premier, le plus célèbre, c'était le Gaëtan Dugain qui a provoqué les premiers sida aux États-Unis. Et lui, il est très connu parce qu'on a remonté la piste jusqu'à lui assez vite. Et ce SRAS de 2003, donc 2003-2004 à Hong Kong, il est très intéressant parce que c'est la première fois, d'abord, qu'on a trouvé un coronavirus pathogène. Il y a d'autres coronavirus avant qui donnent, enfin, très pathogènes, pardon. Il y a d'autres coronavirus qui donnent des petites maladies bénignes. Et celui-là, c'était le premier coronavirus vraiment pathogène, dangereux. Donc, on l'a identifié très vite. On a identifié très vite l'origine, donc le patient. C'était une civette, l'animal qui avait transmis à l'homme. Et donc, ça a été un premier exploit, j'allais dire, au niveau virologique et génétique. Et évidemment, il était tout à fait comparable à celui d'aujourd'hui, hein, qu'on appelle le SRAS, le COV2. Hein, là, c'était le COV1, coronavirus 1, et là, c'est le SRAS-COV2. Et il est très comparable, en fait, c'est pratiquement la même chose. Alors, la différence, c'est que celui-ci est beaucoup plus contagieux, il a une contagiosité beaucoup plus élevée. Par contre, il est un peu moins, il est moins létal hein, que l'autre. La létalité, donc, c'est le nombre de morts par rapport au nombre de cas. Il est moins létal que le premier. Fort heureusement, le premier était une létalité, avait une létalité d'environ 10%, je crois, alors que celui-ci, on tourne autour de l'ordre de 2%, ce qui est évidemment beaucoup pour une maladie très contagieuse.
Lorsque vous évoquez le SRAS, vous renvoyez également, Luc Périneau, à des peurs ancestrales, comme des peurs, par exemple, relatives à la peste. Est-ce que cela explique la manière aussi dont les individus, en France ou ailleurs, se comportent vis-à-vis de la maladie, en ont peur, respectent le confinement ?
Alors, il y a quelque chose d'assez que j'ai souvent développé et qui est assez impressionnant. C'est ce que j'appelle la démesure infectieuse. Alors, la démesure infectieuse, c'est quoi ? C'est considérer que les maladies infectieuses sont toujours les plus graves de toutes. Hein, à partir du moment où c'est infectieux, alors viral, bactérien, pareil, peu importe, c'est grave, c'est forcément dangereux et c'est forcément, j'allais dire, presque cataclysmique. Hein. On imagine toujours l'apocalypse virale. Hein. Il y a plein
de science-fiction.
Voilà, l'apocalypse virale, c'est, je ne sais pas pourquoi. Alors ici, il y a forcément des explications. Vous avez parlé de la peste, c'est sûr que la peste a laissé un souvenir certainement très fort dans l'inconscient collectif, mais fort heureusement.
Et oui, la peste pouvait tuer la moitié d'un village.
Voilà, oui, c'était une létalité, quand on parle de létalité, qui était de 100% d'ailleurs, et la mortalité, c'est-à-dire par rapport à la population, non plus par rapport au nombre de cas, elle était de 35%, voire 50%. Effectivement, c'est monstrueux, c'est inimaginable aujourd'hui, on peut dire. Hein. Voilà. Donc, effectivement, il y a ça, mais cette démesure, elle est pas raisonnable, en fait, évidemment, puisque c'est une démesure, elle n'est pas raisonnable, parce qu'il y a beaucoup de maladies et de choses beaucoup plus graves qui nous ennuie et qu'on ne considère pas. Alors moi, je donne des exemples. On ne tolère pas, par exemple, 5 cas de méningite à méningo C. Hein. Il y a 5 morts par an de méningite à méningo C. Hein. Je parle bien d'une... Il y en a 5 par an en France, des enfants, bien sûr. Et c'est intolérable. C'est intolérable et jusqu'au point de rendre une vaccination obligatoire pour tous les enfants pour sauver 5 vies, ce qui est bien sûr très bien. Mais on tolère par ailleurs 200 enfants tués sur la route sans que ça lève la moindre interrogation. Voilà, c'est le rapport entre ce qui est infectieux et ce qui ne l'est pas qui est totalement démesuré.
Depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19, Luc Périneau, est-ce que vous avez entendu des histoires qui pourraient venir enrichir vos histoires de patients zéro ?
Ah, alors j'ai colligé plein d'histoires. Alors pourquoi c'est intéressant de voir que pourquoi j'ai colligé des histoires de patients zéro ? Parce que en fait, dans l'histoire de la médecine, des maladies infectieuses et des autres, on parle toujours des découvertes des médecins, mais il faut savoir que sans les malades, on n'aurait pas pu faire ces découvertes. Et très souvent, voilà, tout simplement.
Il faut remercier les malades.
Voilà. Oui, ben, c'est-à-dire qu'on remercie les médecins et les malades. Ce sont des couples qui se forment, hein, de couples médecins-malades, et ça nous aide beaucoup. Donc, des nouvelles histoires de couples médecins-malades, il y en aura toujours. On peut, par exemple, imaginer, il y en a déjà, par exemple, une maladie orpheline qui va être découverte grâce à la génétique, toujours, hein, c'est la génétique, et ce sera évidemment la rencontre entre un médecin un peu plus curieux que les autres et puis un malade qui a cette maladie. Donc, ça n'arrêtera jamais, hein, les histoires. Histoire de couple médecin-patient zéro, en fait.
Vous êtes beaucoup intéressé au darwinisme. Qu'est-ce que le darwinisme a à dire sur l'épidémie que nous combattons aujourd'hui, l'épidémie de coronavirus ?
Alors là, je vous remercie de me poser cette question parce que c'est le sujet qui me passionne le plus. Alors je trouve très sincèrement que les sciences de l'évolution, donc vous appelez le darwinisme, c'est ce qu'on appelle la biologie de l'évolution ou les sciences de l'évolution, eh bien, je trouve que les sciences de l'évolution sont particulièrement absentes dans le décryptage de cette nouvelle virose, de cette nouvelle émergence virale, du Covid-19. Je trouve qu'elles sont très absentes. Je n'ai jamais entendu dire, et je le regrette, que par exemple, les maladies virales, par définition, le virus est un être vivant qui est donc soumis lui aussi aux lois de l'évolution. Donc son intérêt, par exemple, ça n'est pas d'être très contagieux et ça n'est pas d'être très visible par son hôte. Plus un virus est discret, mieux il a des chances de se diffuser, hein, et de réussir finalement son programme évolutionniste personnel, qui est de se diffuser le plus discrètement possible. Donc la contagiosité, c'est une chose excellente pour un virus, parce qu'il va diffuser beaucoup. Donc évidemment, la contagiosité respiratoire, c'est la plus facile, la plus pratique et la plus efficace. Hein. Mais la virulence n'est jamais son intérêt. Parce que la virulence va entraîner des défenses terribles contre lui, artificielles ou naturelles, hein, et donc il ne va pas réussir sa diffusion. Donc un virus n'a jamais intérêt à tuer son hôte, parce qu'en tuant, vu qu'un virus a besoin pour se reproduire d'être à l'intérieur d'une cellule hôte, en tuant son hôte, il se tue lui-même et il tue toute sa progéniture. Donc il n'a pas intérêt. Donc il faut pouvoir dire, pour donner de l'optimisme à nos concitoyens, que le plus souvent, la virulence des épidémies, donc surtout virale, hein, je dis bien virale, diminue au fil du temps.
Et c'est ce qui explique, par exemple, qu'aujourd'hui, on ait affaire à un virus qui soit à la fois très contagieux, peu létal et bien souvent asymptomatique, Luc Perrineau.
Alors, alors c'est intéressant, on a parlé tout à l'heure du premier coronavirus. Moi, j'ai tendance à dire que ce deuxième coronavirus, donc ce deuxième dangereux, hein, il est moins dangereux que le premier, malgré tout, c'est certain, et que c'est sans doute, on peut considérer ça comme une évolution, hein, entre deux souches virales, une première souche puis une deuxième, qui aurait choisi donc une plus forte contagiosité, ce qui est logique, et une plus faible virulence et létalité, c'est probable. Et il faut savoir aussi que dans toutes les maladies virales, ce qui est le cas de celle-ci, dans toutes les maladies d'ailleurs infectieuses d'une manière générale, vous avez l'autre côté qui est le terrain, hein, c'est-à-dire celui qui reçoit l'hôte, et effectivement, vous avez beaucoup de personnes qui voient passer le virus sans avoir le moindre symptôme. Hein. C'est d'ailleurs le cas, je crois, pour le Covid, c'est la grande, très grande majorité, hein, puisque la maladie guérit spontanément sans séquelles, dans 95% des cas, voire un peu plus.
Luc Perrineau, Patient Zéro, Histoire inversée de la médecine, aux éditions La Découverte. Dans quelques instants, aux environs de 8h20, nous serons en compagnie d'un historien de la médecine, Guillaume Lachenal.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
La meilleure façon de comprendre l'épidémie que nous sommes en train de vivre, c'est d'avoir la mémoire longue et de la comparer à d'autres épisodes, notamment en matière d'épidémie que l'humanité a pu connaître, du sida jusqu'à Ebola. Nous sommes en compagnie d'un historien des sciences, Guillaume Lachenal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire des sciences au Media Lab à Sciences Po. On a déjà connu avec les autres épidémies ces différentes recherches, certaines fructueuses, d'autres infructueuses en matière de médicaments. Hier, ce qui occupait la une de l'actualité en matière donc de traitement contre le coronavirus, c'est le tocilizumab, qui est un anti-inflammatoire et qui aurait, au sein d'un essai, très préliminaire à la PHP, donné un certain nombre de résultats prometteurs. Qu'en pensez-vous, Guillaume Lachenal?
Alors c'est vrai que pour un historien de la médecine, ce qui est fascinant depuis maintenant 2-3 mois, c'est que des sujets qui étaient notre petite question professionnelle d'une petite communauté d'experts, etc., deviennent des sujets majeurs de la vie quotidienne et de la vie démocratique. Et je pense qu'on va bientôt parler du tocilizumab à la boulangerie et parler d'anticorps monoclonaux à l'arrêt de bus. Parce que le tocilizumab, c'est un anti-inflammatoire, mais d'une classe très particulière et très high-tech, hein, qui sont des anticorps monoclonaux, donc une génération de médicaments qui nous vient directement des biotech. Et donc c'est une molécule très spécifique et compliquée aussi à manipuler.
Et le fait qu'on en parle beaucoup, et qu'est-ce que ça suggère en vous, en dehors du fait que vous voyez votre objet d'étude désormais popularisé?
Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup parce qu'évidemment il y a une demande sociale de réponses thérapeutiques. Il y a aussi une demande peut-être d'espoir, ou on demande aux médecins aussi autre chose que ce qu'ils savent faire, ce qui est de donner de l'espoir ou de dessiner un horizon où la maladie ne serait plus là. Donc ça, c'est une demande presque religieuse qu'on adresse aux médecins. Mais c'est vrai que dans les épidémies, ce type de débat public sur des médicaments présentés comme des médicaments miracles, c'est quelque chose qui est assez familier, avec aussi une frontière qui est sans cesse disputée pendant ces débats publics, c'est la frontière entre le charlatanisme et la vraie science, et des débats aussi entre médecins sur ce qu'est la vraie science.
Justement, comment distinguer cette frontière de démarcation entre ce qui relève de la science et ce qui relève ou bien de la religion, de l'acte de foi ou de la pensée magique ?
Alors la réponse, c'est que cette frontière, elle est perpétuellement négociée. Il n'y a pas une bonne manière d'y répondre, mais un précédent auquel beaucoup de gens ont pensé quand la fameuse affaire Raoult a commencé, c'est le précédent de l'épidémie de sida en France, et ce qui est une affaire fameuse à l'époque, en 85, qui est l'affaire cyclosporine.
Et il faut rappeler ce qu'a été la cyclosporine.
Alors l'affaire cyclosporine, ça, c'est quelque chose qui a lieu un peu par surprise comme ça en octobre 85, avec une un peu à la Raoult justement, avec trois grands professeurs de médecine parisiens, dont Philippe Even, hein, qui est un médecin qui sévit encore, professeur Andrieux, professeur Even, qui ne sont pas des spécialistes du sida à l'époque, qui sont pneumologues, cancérologues, je crois, et qui organisent une conférence de presse avec la secrétaire d'État à la Santé, Georgina Dufoy, dans un amphi où vient toute la presse et qui annonce « la France a trouvé le traitement contre le sida ». Donc on est en 85, vous savez que ça a pris bien plus ensuite. Et ce traitement, c'est la cyclosporine. Et pourquoi on vous dit qu'on a trouvé le traitement ? Parce que nous, cliniciens, avons soigné 5 patients ou 3, je ne me souviens plus, et on sait qu'ils vont mieux, et c'est un miracle. Il y a de l'espoir, et la ministre dit « il vaut mieux donner de faux espoirs que pas d'espoir du tout ». Et donc c'est cette annonce, comme ça, on a trouvé, on n'a pas publié, on n'a pas fait d'essais cliniques randomisés ni rien, mais on vous le dit parce que c'est notre devoir de clinicien de vous donner de l'espoir, et c'est notre devoir aussi d'agir dans l'urgence parce que c'est une maladie face à laquelle on est démuni. Et là où l'affaire cyclosporine va commencer, c'est que tout le monde ne va pas être d'accord avec cette façon de penser la recherche clinique, ces trois médecins vont commencer à se faire beaucoup critiquer. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils vont se faire critiquer pas par les institutions, mais plutôt critiqués sur leur gauche par des gens qui sont plutôt des gens plutôt proches des malades, type association, la presse plutôt de gauche, typiquement Libération, qui va titrer tout de suite les scientifiques malades du sida, en disant c'est pas une façon de faire de la science que de présenter des résultats qui sont pas publiés, sans bras contrôle, etc. Donc vous voyez
un bras contrôle, il faut rappeler ce que c'est, Guillaume Lachenal, et il faut expliquer pourquoi c'est essentiel.
Un groupe de patients qui est atteint par la même maladie et à qui on n'a pas donné le traitement. C'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à Raoult, d'avoir présenté des résultats sur l'hydroxychloroquine, où il présente 1000 patients traités. Il dit que ces 1000 patients en moyenne vont beaucoup mieux après avoir reçu l'hydroxychloroquine, sauf qu'on n'a pas fait, on n'a pas suivi la destinée de 1000 patients non traités, qui en fait, en grande majorité, vont aussi beaucoup mieux sans hydroxychloroquine. C'est ça l'intérêt de la comparaison.
Oui, alors... Je vous en prie, allez-y Guillaume Lachenal.
Et ce qui est intéressant avec l'hydroxychloroquine, c'est qu'on a comme ça des voix qui disent « votre conviction de clinicien, votre intuition à la Raoult justement, votre sentiment d'avoir le devoir de donner de l'espoir, etc. Nous, on s'en fout en tant que malade, nous on veut de la bonne science, et de la bonne science, ça prend plus de temps, c'est évalué par les pairs, c'est publié internationalement, la bonne science, c'est pas ce type d'annonce. » Et donc ces voix qui sont celles en particulier des patients et des associations, c'est des voies qui vont graduellement imposer, ça va être un des effets très bénéfiques de l'épidémie de sida, elles vont graduellement imposer en France et dans beaucoup d'autres pays un modèle de la recherche qui est plus collectif, plus institué aussi, avec des comités d'éthique, avec effectivement des normes méthodologiques parfois pesantes, mais qui garantissent en retour une certaine robustesse en fait des résultats qu'on présente. Et cette critique de la cyclosporine, pour finir avec ça, quand je dis qu'elle vient aussi de la gauche, quelqu'un comme Guy Debord, hein, qu'on ne peut pas soupçonner d'être
le situationniste, pour rappeler en quelques mots qui il était.
c'est pas le ministère de l'Intérieur. Guy Debord va écrire dans les commentaires sur la Société du spectacle sur cette affaire cyclosporine en disant ça y est, la science en fait elle-même qui soi-disant se prévaut de normes, de rationalité, etc., etc., est contaminée par le spectacle, ce qu'il appelle le spectacle, et la science en fait renoue avec l'art des charlatans et des tréteaux forains où on vient vendre sa petite potion magique. Et donc cette affaire cyclosporine, c'est un motif dans l'histoire des épidémies, ça c'est le cas français, mais quand on a vu rejouer tout récemment avec l'hydroxychloroquine, cette annonce du médicament miracle et tous les débats qui vont autour, c'est un motif qu'on retrouve.
Mais en fait, l'histoire du sida, où il a fallu 6 ans pour trouver un traitement, est une histoire extrêmement intéressante sur le plan de l'épistémologie, de la connaissance d'une maladie et de la validité du savoir scientifique, tout simplement parce qu'il y a eu 6 ans d'errement, avec des personnes souvent de bonne foi, et l'apparition d'un certain nombre de protocoles. Par exemple, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à populariser les protocoles compassionnels que l'on voit utilisés aujourd'hui avec la COVID-19. Un mot à ce sujet, Guillaume Lachenal.
Alors oui, c'est des protocoles qui se font beaucoup à la demande des patients, et l'épidémie SIDA voit vraiment l'irruption des patients organisés en collectif comme interlocuteurs des chercheurs et qui vont dire « vous ne savez pas si ça marche, mais donnez-le nous quand même parce qu'il n'y a rien d'autre ». Et c'est cette idée du compassionnel avec un accès aussi égalitaire, par exemple par tirage au sort au traitement quand il n'y en a pas assez. Et ça, c'est des choses qui effectivement vont être imposées par les patients aux cliniciens, et c'est des choses qu'on va garder depuis, qu'on a fait pendant les épidémies d'Ebola et qu'on a fait aussi ici pour des cas sévères où on dit bon, de toute façon, même si on ne sait pas, on vous donne l'hydroxychloroquine, c'est le moins qu'on puisse faire, même si on a peu de chance de vous sauver.
Et c'est ce que l'on a vu, pas seulement avec l'hydroxychloroquine, on l'a vu aussi avec le remdesivir de Gilead, qui est donc là aussi un antiviral qui a montré son efficacité dans certains cas, mais qui, semble-t-il, ne le montre pas dans le cas de la Covid-19, avec un laboratoire qui souhaitait dire que ce produit était efficace, Guillaume Lachenal.
Alors, ouais, ces essais compassionnels, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est qu'il faut faire souvent un arbitrage entre l'étude qui va nous donner des résultats publiables et solides, et puis effectivement les impératifs éthiques qui font qu'on doit porter assistance à ces patients. Il y a parfois une tension éthique qui est intéressante pour l'historien ou pour le philosophe, hein, entre bien prendre en charge le mieux possible et puis produire des bonnes preuves. Et parfois, les deux coïncident pas.
Mais lorsque on a effectivement ces différentes représentations de la maladie, on a à chaque fois derrière une recherche qui tente de conceptualiser les choses. C'est pour ça que je revenais au sida, puisqu'avant de comprendre la nature très particulière de cette maladie, il y a eu différentes hypothèses. C'est normal, c'est comme ça que la science avance. Aujourd'hui, on est un peu dans cette même phase avec la Covid-19, où on se demande si c'est véritablement une maladie pulmonaire, s'il ne s'agirait pas d'une maladie systémique. Bref, là aussi, un parallèle peut être fait, Guillaume Lachenal.
Oui, absolument. C'est vrai que c'est un virus qui met les virologues et les cliniciens un petit peu en échec. C'est une énigme. Et d'ailleurs, c'est pas inintéressant que les deux traitements dont on a le plus parlé. Alors d'abord, l'hydroxychloroquine, hein, comme son ancêtre, la quinine, etc. C'est un médicament très utile pour toutes sortes d'affections, mais dont on comprend pas très bien le mode d'action. Hein. C'est pas le médicament, la petite clé qui va dans la serrure où on comprend très bien biologiquement ce qui se passe. La quinine, la chloroquine, c'est des médicaments un peu compliqués avec des modes d'action assez diffus et qui ont notamment une action anti-inflammatoire, et aussi bien le tocilizumab que l'hydroxychloroquine, c'est des médicaments utilisés pour la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie inflammatoire, c'est-à-dire une réponse. Le problème de l'inflammation, c'est la réponse de l'organisme à l'infection, mais des effets délétères de la surréaction de l'organisme. Et là, le tocilizumab, qui interagit directement avec les messagers de l'inflammation, semble bien marcher pour cette dégradation des patients très sévères et cette fameuse tempête cytokine, c'est-à-dire un état d'hyperinflammation. Et ça, c'est intéressant de voir que le Covid est peut-être avant tout une maladie inflammatoire. Et à ce titre-là, c'est ironique que beaucoup de gouvernants d'États dans le monde aient fait de la guerre au virus leur slogan, alors même que biologiquement, c'est précisément la guerre qu'on fait au virus qui semble nous tuer.
Et lorsque justement on essaye de voir comment tout cela fonctionne dans les représentations, là aussi si on veut poursuivre le parallèle qui peut être fait entre le virus actuel, le coronavirus, et le HIV, le virus lié au sida, Guillaume Lachenal, on a tendance à surinterpréter les choses et à donner une signification au virus.
Oui, alors les deux virus ont eu des destinées différentes à ce niveau-là. Le sida était une maladie très chargée symboliquement immédiatement, hein, liée au sexe, à la mort, à l'homosexualité, etc. Donc Susan Sontag, qui était une intellectuelle new-yorkaise des années 80, avait justement pris position en disant il faut arrêter, il faut déshabiller les maladies de leurs métaphores et les traiter celles... Parfois, une maladie, c'est juste une maladie, ça n'a aucun message. Et il faut avant tout essayer de la soigner rationnellement. Et c'est vrai que le coronavirus, lui, est venu avec des métaphores très différentes, qui sont des métaphores de l'étranger, de l'Asie, etc. Et puis toutes ces métaphores de la mondialisation, du néolibéralisme, etc. Donc il est tentant aussi de le traiter comme une métaphore, et il est nécessaire aussi, je pense, d'essayer de le déshabiller de ces métaphores et de l'aborder, là encore, le plus rationnellement possible, sans vouloir lui faire porter tous les maux de la planète.
Alors, justement, que vous inspire cette inflation de commentaires? Cela fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines en réalité, que l'actualité est tout entière consacrée à ce virus. Ça, c'est quelque chose, à ma connaissance, d'inédit. Vous qui êtes historien des sciences, Guillaume Lachenal, qu'est-ce que ça vous inspire?
Ah ben moi je suis complètement dépassé, hein, littéralement. J'avais commencé mes cours de ce semestre début janvier avec les étudiants en leur disant on va suivre le coronavirus qui est en train de se passer en Chine, ça a l'air hyper intéressant justement pour voir comment la science est en débat public, etc. Et puis en fait c'est devenu complètement impossible à suivre, on est complètement dépassé, etc. Mais en même temps je crois que c'est vrai, on a aussi une bibliothèque, hein, pour essayer de comprendre ces relations sciences et société et sciences en politique. On le voit avec ces comparaisons avec le sida, l'affaire cyclosporine, etc. On a une bibliothèque qui est quand même utile pour nous donner un peu une boussole dans cette situation, mais il faut bien dire qu'on est aussi dépassé, aussi démuni et puis aussi anxieux parfois que tout le monde.
Est-ce que l'idée selon laquelle nous n'étions pas suffisamment préparés contre une pandémie est une idée véritable? Est-ce que les gouvernements, tous les gouvernements, ont abandonné depuis des années l'idée qu'une épidémie pourrait avoir des conséquences funestes sur nos sociétés, Guillaume Lachenal?
Bah, c'est un petit peu plus paradoxal que ça, parce que en fait, depuis le milieu des années 90, on ne s'est jamais autant préparé. C'est-à-dire que on a compris que la menace pandémique était une menace d'ordre sécuritaire. C'est-à-dire que c'est pas tant le nombre de morts qu'une pandémie peut faire que la manière dont elle peut complètement interrompre la vie économique et ce qu'on appelle la vie normale. Donc cette compréhension sécuritaire des épidémies, c'est quelque chose qui émerge dans les années 90 avec la mondialisation en gros et qui domine en fait l'agenda de l'OMS au département de la défense américain depuis. Donc on s'est jamais autant préparé, et le paradoxe c'est qu'en se préparant on s'est aussi impréparé complètement.
Et c'est là où... Comment vous expliquez ça?
Alors on s'est impréparé parce que en même temps qu'on a adopter ce cadrage sécuritaire des épidémies, on a renoncé progressivement à l'idée de santé publique et de système de santé publique, c'est-à-dire par des politiques, disons, d'austérité. On a un peu coupé les robinets, on a laissé se démanteler tout un appareil de petites institutions, nos dispensaires médico-sociaux, nos PMI, etc. On a démantelé un peu cette vieille santé publique qui était née avec les États-providence à partir des années 30. Donc, en gros, on a fait d'un côté de la sécurité en disant on va faire des plans de préparation militaire, des entrepôts où on va mettre des masques, etc. Et puis de l'autre, on a laissé un système de santé partir un peu à la dérive, on a laissé les soignants être de moins en moins bien payés, on a réduit les lits, etc. Bon, des histoires qu'on a beaucoup racontées. Donc on a fait un peu deux choses en même temps, l'une en se préparant un peu théoriquement et l'autre en s'impréparant matériellement.
Mais alors, du coup, avec, avec cette épidémie de coronavirus, Guillaume Lachenal, on voit apparaître des vigies, des gens qui sont aujourd'hui considérés comme ayant eu raison avant tout le monde. Alors on a par exemple Roselyne Bachelot qui a été pendant longtemps moquée pour le nombre de masques et de vaccins qu'elle avait commandés, et puis aujourd'hui qui apparaît comme étant quelqu'un qui avait compris les choses avant tout le monde. Votre point de vue à ce sujet ?
Bah c'est sûr, elle s'en sort bien là-dessus. Après, d'autres observateurs ont fait remarquer qu'elle avait été aussi impliquée dans pas mal de réformes hospitalières qui sont en partie responsables de l'état difficile de nos hôpitaux. Après, c'est vrai que sur la grippe de 2009, c'est une grippe où le consensus général, et moi j'ai dû le dire personnellement, hein, c'était de dire qu'on en avait trop fait. Et l'OMS avait fait une sorte de retour de contrition en disant on a un peu surréagi. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait eu beaucoup de confusion. On avait parlé de cette pandémie de niveau 5, etc., alors que c'était une grippe qui était vraisemblablement pas plus sévère que les grippes saisonnières. Donc il y avait eu un problème d'hyperréaction et qui a fait un retour de balancier qui nous a mis dans un cycle, disons, de sous-réaction qui a été très douloureux au moment de l'épidémie d'Ebola de 2014, où là, cette fois, l'OMS avait mis de très longs mois avant de prendre la mesure de la crise. Et le coronavirus, l'OMS avait quand même pas mal corrigé le tir, et pour l'instant, il est difficile au niveau de l'OMS de faire vraiment un procès en non-réaction sur le coronavirus. Mais après, c'est vrai que ce qui est douloureux aussi, c'est le suivi de ces plans qui ont été faits suite à la pandémie de 2009. Et là, Roselyne Bachelot, effectivement, avait raison de rappeler qu'elle avait lancé cette dynamique. Et c'est quelque chose qui s'est un peu... notre mobilisation s'est effilochée au fil des années. On a laissé ces plans perdre de leur force. Et je pense que c'est une analyse qu'il faudra faire au niveau gouvernemental, mais qu'il faut faire aussi à l'échelle de tout. Il n'y a pas que le gouvernement, à l'échelle de toute une série des préfets, des corps intermédiaires, des institutions. C'est des plans qui étaient censés être appropriés aussi par la société civile, des cabinets de médecins aux écoles, et tout le monde a traité ça avec quand même rétrospectivement. Hein, c'est un jugement rétrospectif, c'est forcément injuste, mais tout le monde a traité ça avec un peu de désinvolture. Mais les citoyens compris, je pense que cette impréparation, là encore une fois, on peut taper sur un gouvernement, mais je pense que c'est une défaite qui est plus collective que ça.
Votre connaissance des épidémies dans les pays du Sud, est-ce qu'elle peut nous donner des leçons à tirer de la période que nous sommes en train de traverser, Guillaume Lachenal ?
Bah, je crois qu'effectivement, les pays du Sud, l'Afrique en particulier, sont encore plus intéressants comme précédent, parce que l'Afrique n'a jamais cessé d'être exposée à la menace épidémique, et en particulier avec le sida, a vécu et vit encore une crise épidémique qui fait vaciller la société, qui fait des centaines de milliers de morts chaque année. Et la manière dont justement ces épidémies ont polarisé la société localement, ont chamboulé aussi les gouvernements, c'est quelque chose qui a été vécu en Afrique, en particulier à la fin des années 90, au début des années 2000. Hein. Souvenons-nous, l'Afrique du Sud de Thabo Mbeki, avec des controverses de type affaire Raoult à l'échelle du sommet de l'État.
L'Ouganda, il faut que vous l'évoquiez pour ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas ces controverses.
Thabo Mbeki était le président qui a succédé à Nelson Mandela et qui présidait l'Afrique du Sud à un moment où l'épidémie de sida explosait, hein, avec des taux de prévalence qui atteignait plusieurs dizaines de pourcents chez les jeunes. Donc des générations entières en fait qui étaient menacées et qu'on a perdu aussi. Hein. Et Thabo Mbeki, dans ce contexte, a pris position publiquement de façon très fameuse en niant le fait que le VIH, le virus, était la cause du sida. Donc c'était un peu un youtubeur avant l'heure qui disait moi j'ai compris, j'ai fait des recherches, c'est pas cette histoire de coronavirus, c'est pas vrai, je vais vous expliquer pourquoi, c'est les antennes de 5G, etc. Donc Thabo Mbeki a pris une position comme ça qui a beaucoup choqué à l'époque, et les scientifiques spécialistes du sida lui avaient répondu avec une déclaration fameuse, la déclaration de Durban, où il disait non, le VIH est la cause du sida, etc. Mais controverse scientifique était aussi une controverse politique, parce que Thabo Mbeki disait bien d'autres choses, et il disait le problème du sida, c'est pas simplement un virus et des traitements biomédicaux, mais c'est une épidémie qui qui fait son miel de l'inégalité. Et cette inégalité, elle est politique, et elle est notamment politique liée aux politiques de prix des médicaments, de propriété intellectuelle, etc. Donc c'est une controverse qui va prendre une ampleur politique, avec des activistes qui vont rentrer dedans, qui vont jouer un rôle considérable aussi, pour, en particulier, face à l'Organisation mondiale du commerce, demander que les médicaments soient accessibles sous forme générique, sans rétorsion des firmes pharmaceutiques, etc. Donc on a là un fait politique extrêmement riche qui va traverser toute la société sud-africaine. Tout ça pour dire que ces épidémies politiques, les pays du Sud n'ont cessé en fait d'en faire l'expérience.
Et oui, parce qu'il faut rappeler que l'épidémie de sida à ce jour a fait pratiquement 40 millions de morts. Il y a aujourd'hui évidemment une obsession liée au coronavirus, puisque c'est le virus que nous avons à combattre aujourd'hui, mais cela ne doit pas nous faire oublier ce qui s'est passé hier ou qui continue à se passer, puisque le sida et d'autres épidémies continuent à faire des morts et qui peuvent nous permettre de mieux combattre et de mieux comprendre ce qui nous arrive, Guillaume Lachenal.
Oui, et c'est aussi un rappel que c'est pas très agréable à entendre maintenant, mais que les épidémies en fait finissent rarement. À la fois, elles peuvent disparaître ou rentrer dans la normale, mais elles laissent derrière elles des gens qu'on a perdus. Ça, c'est un héritage du sida aussi. C'est des millions de gens qui sont plus là. Et puis, elles laissent aussi des séquelles dans les corps. Hein. Les épidémies, elles laissent des handicaps, elles laissent des traumas. Et puis, elles laissent aussi, heureusement, un héritage parfois dans les institutions, dans les façons de faire de la médecine, de la recherche qui sont positifs.
Et puis, j'aimerais juste terminer par un propos du philosophe Michel Foucault qui parlait d'un rêve politique de la peste. Si on essayait d'appliquer cela à ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que ça voudrait dire, Guillaume Lachenal ?
Bah, Foucault aimait bien les épidémies parce que les épidémies lui étaient pour lui une forme un peu pure de gouvernement. On pouvait comprendre à travers l'histoire des épidémies comment on avait théorisé ce qu'était le pouvoir et ce qu'était le gouvernement et pratiqué aussi. Donc il comparait la lèpre, qui était un pouvoir un peu médiéval dont le mode d'action était l'exclusion, hein, on virait les lépreux hors des villages, à la peste, qui était un mode de pouvoir que lui qualifiait d'analytique, c'est-à-dire qu'on identifiait les individus contaminés, les maisons et dans la ville, et on figeait les individus dans leur identité, à leur place, et comme ça, on faisait rentrer la ville dans une grille, et ça, c'était le rêve politique de la peste, justement. Alors là, on a un rêve politique du coronavirus qui, bah, il faudra laisser les politologues et les lecteurs de Foucault analyser ça, mais avec, et c'est vrai, peut-être d'autres formes de gouvernementalité qui se mettent en place. Et peut-être des formes archaïques aussi qui continuent de s'exprimer, en particulier cette forme de gouvernement un peu spectaculaire, hein, où il s'agit aussi de maintenir l'ordre de manière très rudimentaire et de mettre en scène l'action des gouvernants de manière la plus spectaculaire possible. Et ça, c'est vrai de la Chine aux États-Unis en passant par la France.
Merci Guillaume Lachenal. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire des sciences au Media Lab et vous avez notamment publié Le médecin qui voulut être roi aux éditions du Seuil.